Et à tous. Alors. Voilà. OK. Je peux avoir la main sur le. C'est bon? Parfait, merci. Ce matin, j'ai eu le désir de. Enfin, ce matin, non, il y a quelques semaines, j'ai eu le désir de gratter la lettre de Pierre. Je savais que dedans, il y avait quelque chose qui parlait des épreuves. Ce sujet m'intéressait particulièrement. Donc, à force de gratter, ben voilà, j'en ai fait une prédication. Lisons dans la lettre de Pierre. On va être sur le premier chapitre, bien que je vais aller me balader aussi dans le reste de la lettre, parce qu'il y a des choses un peu intéressantes, mais ça, je vous le dirai. Le texte qu'on va utiliser comme base vraiment de cet enseignement, c'est chapitre 1 du verset 3, et on ira jusqu'au verset 9. Donc si vous avez une Bible vous-même, n'hésitez pas à la sortir et à suivre de votre côté. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Charles Trenet, un jour où il était à l'armée, il a écrit cette chanson et il s'ennuyait. Encore. C'est la suite du jeu.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat
chaque. Oui, c'est bien guilleret, mais quand vient l'épreuve et la souffrance, est-ce que les hirondelles, le ciel bleu et le soleil suffisent ? Savez-vous à qui Pierre a écrit cette lettre ? Pierre a écrit une lettre d'encouragement aux chrétiens d'Asie mineure, alors que leur foi était le sujet de leur souffrance. Ces chrétiens d'origine païenne ont changé de vie et un fossé s'est creusé entre eux et le reste de la société. À cause de leur foi, ils sont calomniés, ils sont insultés par leurs voisins, peut-être même par leurs amis, par leur famille. Pas sûr que les hirondelles de Charles Trenet suffisent pour tenir bon, accrochés justement à cette foi qui est le sujet des moqueries. Le texte que nous avons lu se découpe en trois idées, et ce message va suivre ce même enchaînement. Pierre commence par évoquer la joie du salut de la fin des temps. Il annonce ensuite ce qui est le fil rouge de toute sa lettre, les épreuves. Et il rebondit finalement en mentionnant la joie du salut déjà à l'œuvre. Alors, J'espère que cette prédication vous donnera envie de relire cette lettre de 1 Pierre. L'apôtre, ici, dans ces quelques versets, vient poser toute la base théologique de sa lettre. Quand notre foi est mise à l'épreuve, la parole de Pierre fait du bien. Et si vous vous dites, « Oh, tu sais, Nicolas, moi, ça va, hein, j'ai la foi et personne ne vient trop m'embêter avec ça. » Vous avez raison de penser ainsi. Dans le cas des habitants d'Asie mineure, le rejet était direct et sociétal. Pierre met le doigt sur le fait qu'ils ont rejeté leur ancien mode de vie et c'est maintenant eux qui sont rejetés. Chapitre 3, verset 4. « Maintenant, les païens trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche, et ils se répandent en calomnie contre vous. » Voilà que nous n'avons même pas commencé l'étude du texte, et déjà, ça coince. En effet, si je ne suis pas rejeté... Pardon, j'aimerais avancer sur la diapo. Pardon. Déjà, ça coince. En effet, si je ne suis pas rejeté à cause de ma foi, la lettre de Pierre n'est pas pour moi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend la semaine prochaine et on espère que le prédicateur sera un peu plus inspiré de choisir un texte un peu pertinent ? Moi, je trouverais ça dommage, mais bon, c'est un avis personnel. Et si on prenait un peu de recul ? Pierre vient apporter un encouragement à des personnes qui ont pris des décisions pour leur vie de tous les jours à cause de leur foi. Ces personnes sont désormais confrontées à une épreuve, tenir ferme sur leurs décisions et assumer les souffrances qui viennent avec. Avant d'étudier ce que dit Pierre dans ce chapitre 1, il me paraît important, nécessaire même, de prendre du temps sur le thème de la lettre. L'évangile de Matthieu nous rappelle cette parole de Jésus, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui la trouvent. » Vivre par la foi, c'est bien souvent refuser de faire le choix de la facilité. Rester sur le sentier resserré, c'est déjà une épreuve. Et j'ai identifié trois grands types d'épreuves. Il y en a peut-être d'autres, c'est celles qui me sont venues à l'esprit. D'abord, il y a ce qui est l'épreuve que je dirais relationnelle. C'est celle de notre texte. Et il y en a sûrement parmi nous qui pour qui le contexte de cette lettre leur parle, ça rejoint leur réalité. Avoir envie de laisser de la place à Christ dans sa vie, ça pousse à laisser de vieilles habitudes au placard. Franchement, je me mets à la place de ceux qui nous ont toujours connus avant. Nos amis, notre famille. C'est pas simple pour eux de ne plus nous reconnaître, de plus nous comprendre. Il y a des choses qu'on n'accepte plus, des choses qui viennent marquer une rupture, créer un fossé sur la manière dont les autres nous ont connus. Peut-être même la manière ou les valeurs avec lesquelles ils nous ont éduqués. Ce fossé qui se crée est un terrain d'attaque plus ou moins violente de la part de nos proches qui, voulant sûrement bien faire, essayent de nous remettre dans le droit chemin en nous disant « Non, quand même, tu ne peux pas tout changer à cause de Jésus. » Il est même possible, notamment pour nos parents, qu'ils se sentent jugés eux-mêmes par les choix qu'on a faits. Mais ne nous trompons pas de combat. Nos proches ne sont pas nos ennemis. Satan l'est. Chapitre 5, verset 8. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ce dernier peut malheureusement parfois agir par nos proches pour les convaincre que nous ne sommes plus les mêmes personnes, que le choix que nous avons fait de suivre Christ mérite leur désapprobation, leur rejet. Dieu nous a créés comme des êtres relationnels. Nous n'aimons pas être en conflit avec les autres. Nous n'aimons pas être rejetés. Nous voulons être aimés. Et c'est à cause de cela, de notre besoin d'être aimés, que l'épreuve de notre foi dans nos relations est un sujet de souffrance. Second type d'épreuve, ce qui a trait à notre sécurité, stabilité. Quand j'étais enfant, je voulais devenir adulte. Quand je suis devenu adulte, j'ai découvert qu'il y avait plein de problèmes à gérer. Alors j'ai appris que pour bien gérer toutes sortes de problèmes, il faut planifier, évaluer, calculer, faire des choix, s'y tenir, etc. Dieu est un Dieu d'ordre. Le monde qu'il a créé répond à une logique. Dans la plupart des cas, il est possible de deviner la suite. Dieu nous a donné de l'intelligence pour que nous puissions faire cela. Mais il nous a aussi donné la foi pour simplement prier et avoir confiance en Dieu pour s'occuper de demain. N'est-ce pas quand les choses ne se passent pas comme prévu ou quand les statistiques sont pessimistes que notre foi est mise à l'épreuve ? Est-ce que je désespère de voir mes plans s'accomplir ou est-ce que je laisse Dieu me surprendre? Et troisième type d'épreuve, je dirais, est lié à notre souhait de nous séparer d'une vie de péché. Il y a ceux qui luttent avec la colère. Il serait plus simple de laisser exploser sa colère et une fois que c'est fait, ah, ça va mieux, on se sent mieux. Mais on sait que cette colère n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour nos relations, elle n'est pas bonne pour nous, on se laisse déborder. Il y a ceux qui aimeraient être libérés d'une dépendance, comme l'alcool, la drogue, la nicotine, les jeux d'argent et peut-être même la pornographie. On pourrait aussi évoquer le mensonge, la jalousie, mais le but ici n'est pas de faire une liste de péchés afin que chacun reparte avec le sien. Nous connaissons assez bien pour savoir ce qui serait bon de changer en nous. Et là où justement c'est une épreuve pour notre foi et une souffrance, c'est que le renoncement est difficile. Abandonner, c'est difficile à vivre dans son corps et dans sa tête. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur cette digression, qui est du coup en dehors de notre texte. On a juste fait un pas de recul face à ce texte pour voir que notre foi est mise à l'épreuve dans d'autres contextes que pour défendre l'Évangile quand on nous calomnie. Alors voyons maintenant le contenu de l'encouragement de Pierre.
Je peux avancer.
Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'à la fin des temps, votre choix de suivre Christ dans cette vie vous permet de passer l'éternité avec Dieu ? Au verset 6, Pierre nous dit que cette promesse fait notre joie. En ce moment, le Père nous prépare un héritage que rien, ni le temps, ni la mort ne peut nous faire perdre. Chouette. Le verset 3 précise qu'il nous fait renaître à une vie nouvelle, une vie qui a déjà démarré. Et que pendant ce temps, il nous prépare déjà cette récompense dans les cieux. La temporalité est intéressante dans ce verset car l'acquisition du choix du salut est un choix fait à un moment donné dans la vie du croyant. Pourtant, Pierre dit que le Seigneur prépare déjà la récompense, donc sans attendre la fin, et que le salut sera révélé à la fin. Dit autrement, Dieu n'attend pas la fin pour nous préparer la récompense du salut. Vient donc une question difficile. Peut-on perdre son salut ? Je serais bien orgueilleux que de vouloir trancher définitivement sur ce sujet qui fait débat parmi les chrétiens. Toutefois, notons que Dieu met en œuvre sa puissance pour que notre salut ne se perde pas en cours de chemin, Verset 5, il le maintient par sa puissance au moyen de la foi, par sa puissance et non par la nôtre. Cette affirmation est rassurante. Quand notre foi fait le yo-yo, quand nous oscillons entre doute et confiance, notre salut n'est pas menacé. Pierre conclut le rappel de cette promesse d'éternité par l'affirmation que cela fait notre joie. Sauf que vous l'avez lu, le verset 6 continue par un « même si actuellement il faut que vous soyez attristés ». Il pose là ce double constat que l'éternité est fondamentalement un sujet de joie, mais qu'il y a aussi des moments, et en l'occurrence des moments d'épreuve, où, pour un temps, la joie s'estompe au profit de la tristesse. Si je vous dis « un jour vous serez riche et vous pourrez acheter tout ce que vous voulez », déjà, vous n'allez sûrement pas me croire, mais surtout vous allez penser « oui, belle promesse ». Mais en attendant, ce n'est pas une promesse qui remplit le frigo. Pierre nous propose non pas de la nourriture, mais de la joie. Et sur cette transition du verset 6, il admet que malgré l'espérance de la fin, éprouver de la joie est parfois difficile. Pierre met donc en opposition la joie intemporelle, inconditionnelle, celle du salut à venir, et la tristesse temporelle, limitée dans le temps, mais actuelle pour ses lecteurs. Le choix des mots est important et permet de dire dans le fond que cette joie et cette tristesse ont toutes les deux leur place. Pierre connaît la situation dans laquelle vivent les membres de ces églises. Il enchaîne avec la question de la finalité et de l'utilité des épreuves. Il va leur dire « Vos épreuves ne sont pas vaines. Elles servent à épurer votre foi qui sera d'autant plus glorieuse au retour de Christ. » Cet argument est celui de vouloir donner du sens aux difficultés que nous vivons. Il me semble toutefois qu'il y a plusieurs écueils dans cette quête de sens. Il y a ce que le texte dit, et il y a ce que nous aimerions que le texte dise. Laurence nous en a parlé la semaine dernière. Tout d'abord, quelle est la portée du sens à donner aux épreuves ? Pierre dit-il que c'est le prix à payer pour avoir accès à des bénédictions ensuite ? Pierre promet-il que ça ira mieux ensuite ? Pierre dit-il qu'elles nous permettent de débloquer des choses dans notre vie spirituelle ? Il affirme seulement que cette foi qui aura tenu bon face à l'épreuve va être purifiée, améliorée, affinée. Pierre reste dans le thème d'une récompense pour la fin des temps. Mais je veux croire qu'une foi éprouvée aura aussi des répercussions positives, ou comme pour un sportif qui s'entraîne, le Seigneur peut nous équiper pour sa mission. Le second écueil qui m'a fait beaucoup réfléchir pendant la préparation de ce message, c'est l'intentionnalité du Seigneur pour nos épreuves. Les épreuves sont utiles pour améliorer notre foi. Le Seigneur veut que notre foi s'améliore. Donc, le Seigneur nous envoie des épreuves. Affirmer cela, c'est faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Les épreuves sont là, oui, et le Seigneur a permis qu'elles soient là, sans pour autant en être responsable. Voilà où est la limite. Toutefois, puisqu'elles sont là, réjouissons-nous qu'elles trouvent un peu de sens en améliorant notre foi. Abordons maintenant ce qui me semble être le point le plus important de notre passage. Une joie pour maintenant. Si vous lisez l'évangile de Luc et que vous enchaînez sur le livre des Actes, vous devriez vous rendre compte que l'apôtre Pierre a vraiment gagné en autorité et en confiance entre les deux livres. Pourtant, les deux récits s'enchaînent et sont écrits par la même personne. Le triple reniement vécu par Pierre juste avant la mort de Christ l'a changé. Sa foi a été mise à l'épreuve quand on lui a demandé s'il était avec Jésus. Et bien qu'il ait échoué, il a été relevé et restauré. Jésus avait annoncé cela à Pierre en Luc 22, verset 32. « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » En le relevant de cette épreuve, de la honte d'avoir renié Christ, le Seigneur l'a équipé pour la mission. Si je vous parle de ça, c'est que je trouve notable que Pierre, le même Pierre, dans sa lettre, ne fait pas du tout de mention du caractère formateur des épreuves. Jusqu'au verset 7, Pierre ne pose comme seul argument que des récompenses pour la fin des temps. N'avoir parlé que de cette réalité lointaine lui permet de mettre l'emphase, l'importance d'une joie disponible pour maintenant. Relisons les versets 8 et 9. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Car vous obtenez votre salut, qui est le but de votre foi. La structure de ce sous-passage des versets 8 et 9 est décorrélée, déliée des versets précédents. L'auteur pose cela comme un acquis et comme un état de fait. La joie dont il parle dans ces versets n'est pas une récompense face à l'épreuve, et surtout pas comme un gain d'avoir tenu bon face à l'épreuve. Cette joie est pour les chrétiens, car ils placent leur confiance en Christ sans l'avoir jamais vu. C'est la définition même de la foi. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. L'apôtre nous parle par deux fois de joie. D'abord au verset 6, d'une joie associée à l'espérance de la fin des temps, et ensuite au verset 8, associée à la confiance en Christ. Ces deux joies ne sont pas équivalentes. Au verset 6, il dit simplement « ce qui fait votre joie ». Au verset 8, il exprime que « vous êtes remplis d'une glorieuse joie ineffable, inexprimable ». Dans le texte original, l'expression utilisée est « agaliao chara », qui porte le sens d'une joie extrême, d'une exultation. Les traductions françaises, vous l'avez peut-être vu dans vos versions, peinent à se mettre d'accord pour traduire ce « agiliao » et utilisent des verbes comme « être rempli de joie »,« déborder de joie »,« être transporté de joie »,« tressaillir de joie ». Pierre use de superlatifs pour montrer à quel point cette joie est immense, au-delà de ce que nous sommes capables de recevoir. Elle va même au-delà des limites imposées par les mots, car elle est indicible, inexprimable. Ne dit-on pas en français que parfois nous ne trouvons pas les mots pour exprimer une émotion intense? Cette joie, elle dépasse sa capacité à être exprimée car elle est glorieuse. Ce terme de gloire renvoie dans le texte grec à la gloire même de Dieu. Cette joie est attachée à Dieu car elle vient de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. Elle ne vient pas de nous, de notre capacité à créer en nous cette émotion. C'est une joie que le Seigneur nous donne. Si la joie des récompenses à venir dans l'éternité, verset 6, est une joie générée par le chrétien, par son espérance, cette joie du verset 8 est donnée par Dieu aux croyants, puisque c'est un fruit de l'Esprit. Galates 5, versets 22-23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. On a d'ailleurs la mention des trois fruits de l'esprit dans ce seul verset 8. L'amour, la joie et la foi. Pierre, un peu plus loin dans sa lettre, au chapitre 4, verset 14, reprend exactement cette même idée. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. De nouveau la joie, le fait d'être heureux malgré l'épreuve, encore cette même notion d'attachement à Christ, et toujours cette mention de la gloire pour parler de ce qui vient de Dieu. Définitivement, par son esprit, le Seigneur Dieu apporte la joie aux croyants. Ce « heureux êtes-vous » n'est pas une injonction, ce n'est pas un ordre, ni même un encouragement. C'est simplement un fait, un constat. Ce n'est pas par nos propres forces que nous sommes dans la joie, c'est par notre écoute du Saint-Esprit qui repose sur nous, qui vit en nous, que nous avons la paix, la patience et la joie qui viennent de Dieu. La lettre de Pierre est une lettre d'encouragement. Elle contient aussi de nombreux impératifs, de multiples demandes que nous n'avons pas étudiées aujourd'hui. Le fil rouge qui sous-tend cette lettre est le constat de la mise à l'épreuve de la foi. Pour tenir malgré l'épreuve, Pierre nous rappelle justement une constante qui ne dépend pas de nous, ni des épreuves que nous vivons. L'Esprit de Dieu nous donne sa joie. Celle-ci est tellement sans limite qu'elle dépasse même celle de notre espérance de l'éternité. Et donc oui, si vous ne deviez repartir ce matin qu'avec une seule chose de ce texte, repartez avec l'encouragement de demander à Dieu sa joie en tout temps. Et en particulier dans les temps de sécheresse de bonheur, quand l'épreuve est là, qu'elle attriste, qu'elle accable. Laissons de côté les hirondelles et le ciel bleu de Charles Trenet. Avant même de demander à Dieu de nous aider à nous en sortir, connectons-nous à son esprit et recevons sa joie glorieuse et inexprimable. Pour terminer, je vous propose de prier. Seigneur, tu es bon pour nous et tu nous connais bien. Tu connais la diversité de nos émotions et tu connais combien parfois l'épreuve, la souffrance, la tristesse nous accablent, nous paralysent. C'est pourquoi tu ne nous demandes pas de tout retrouver en nous, mais toi-même, tu nous as donné les fruits de ton esprit. Alors aide-nous à venir à toi en tout temps, à avoir ce réflexe de venir à toi. Renforce notre foi, connecte-nous à toi. Amen.